Vous écoutez On lit pour vous.
Peut-on s'adapter aux pluies extrêmes? Un texte d'Éric Martel, paru le 22 juin 2026 dans la presse. Alors qu'ils tentent de garder la tête hors de l'eau, de nombreux citoyens blâment leur municipalité, responsable du réseau d'aqueduc. Mais les villes sont-elles réellement outillées pour faire face aux pluies extrêmes? Deux experts se prononcent. Des inondations du genre seront-elles plus fréquentes avec les changements climatiques? Réponse courte, oui. Et surtout dans le Grand Montréal et les milieux urbains. C'est un enjeu important parce que les surfaces sont imperméabilisées. Il y a moins de végétation, moins de structures de drainage, ce qui rend le réseau d'égouts plus sensible, explique la chercheuse au consortium Uranos Angelica, Alberti Dufort. Le plus grand défi lié à ces pluies extrêmes et subites, c'est qu'elles sont difficiles à prévoir. Ce n'est pas comme une crue printanière pour laquelle on analyse le niveau de la neige, des précipitations, qu'on est à même d'anticiper. Ces systèmes-là se forment une ou deux journées à l'avance. Il faudra apprendre à vivre avec, se résout le professeur au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, Yannick Aymon. Que peuvent faire les villes lors de ces pluies subites? Comme elles arrivent de manière inattendue, il est difficile d'y réagir. On ne les prévient pas, on en subit les conséquences. C'est plate, mais il n'y a pas grand-chose qu'elles puissent faire dans l'immédiat, résume M. Aymon. Les administrations municipales peuvent toutefois adapter leurs infrastructures. Les milieux humides, dans lesquels l'eau peut s'accumuler, sont une avenue de plus en plus adoptée. On peut notamment penser à l'espace végétalisé situé sur l'avenue Papineau, au nord de l'autoroute 40 à Montréal, cite en exemple Mme Alberti Dufort. Les espaces verts dans les parcs éponges sont aussi efficaces. Il ne faut plus voir les parcs uniquement de manière récréative. Ils ont aussi un rôle pour recueillir de grandes quantités d'eau dans les secteurs sensibles, explique-t-elle. Évidemment, augmenter la capacité des aqueducs et des égouts peut aussi limiter les dégâts. Mais il s'agit de longs travaux accompagnés d'entraves et de coûts importants, rappelle M. Aymon. C'est tout le grand questionnement derrière nos infrastructures urbaines. Que sommes-nous prêts à accepter collectivement pour les améliorer? Demande-t-il. Les villes prennent-elles les inondations au sérieux? Puisque les pluies extrêmes sont un phénomène relativement nouveau, les villes commencent à en comprendre l'ampleur, croit M. Aymon. Les infrastructures actuelles résistent bien aux accumulations de pluie de 100 mm et moins, mais sont défiées lorsque ce niveau est surpassé, note-t-il, ce qui survient de plus en plus fréquemment. Il y aura des conséquences importantes sur les taxes foncières si les villes se lancent seules là-dedans. Il va falloir que les gouvernements fédéral et provincial investissent, croit-il. Pour sa part, la ville de Montréal est en train de rattraper plusieurs années de manque d'entretien, constate Mme Alberti Dufort. La métropole, comme la plupart des villes, dispose de plans climat pour s'adapter au changement climatique, rappelle-t-elle. Les citoyens peuvent-ils se préparer aux pluies inattendues? Il est possible de se doter d'un système de digues temporaires qui peut être déployé rapidement, évoque M. Aymon. Ces systèmes sont toutefois dispendieux. Les résidents peuvent aussi déplacer leurs objets de valeur du sous-sol et éviter d'y installer leurs panneaux électriques pour limiter les dégâts. L'installation de clapets anti-retour et de pompes est aussi suggérée, bien que ces initiatives soient souvent insuffisantes pour éviter entièrement les dommages. Pour immuniser complètement les maisons, seuls les travaux structurels, notamment pour les surélever, sont efficaces. Mais ils ne sont pas toujours possibles financièrement. Le citoyen a sa part de responsabilité, mais une grande part revient aux instances locales et aux autres ordres de gouvernement. C'est vraiment un travail d'équipe, conclut Mme Alberti Dufort. C'était « Peut-on s'adapter aux plus extrêmes ?» un texte d'Éric Martel, paru le 22 juin 2026 dans La Presse.
Quand le Québec inspire d'autres contrées. Un texte de Vincent Poirier et Élise Lécaudé, paru le 24 juin 2026 dans La Presse. Le BIP test, la référence mondiale. Qui au Québec n'a jamais entendu parler du test navette, aussi connu sous le nom de BIP test? Son principe est très simple. Le participant doit courir sur une distance d'une vingtaine de mètres, séparant deux lignes, à une vitesse qui augmente graduellement à chaque palier. Mais saviez-vous que le Québec peut se targuer d'être à l'origine de cet outil de mesure cardio-respiratoire mondialement reconnu? Le test de Luc Léger a vu le jour à une époque où il y avait énormément de clubs d'entraînement physique, mais très peu de moyens d'évaluer la condition cardiovasculaire hors d'un laboratoire, explique son créateur. Le ministère français de l'Éducation nationale a révélé dans un rapport en février dernier que près de 267 000 enfants de 11 ans ont récemment été soumis à ce test afin de mesurer la condition physique des jeunes Français. Plus de 40 ans après sa création, ce test demeure l'un des moyens les plus utilisés à travers le monde pour évaluer le VO2 max d'une personne, une mesure de la capacité cardio-respiratoire qui sert de moyen de prévenir les risques de maladies chroniques ou de mort prématurée. Les études de M. Léger ont été reprises au fil du temps dans plusieurs pays européens, aux États-Unis ainsi qu'en Australie. Le Québec, leader en agroécologie. En matière d'agriculture soutenue par la communauté, le Québec a la cote. Le projet du réseau des fermiers de famille, fondé par Équiterre en 1996, est devenu une référence mondiale. Quand on va dans des rencontres internationales, on est les rock stars de la place. On est vu comme un groupe de producteurs extrêmement innovants et aussi très solidaires, s'exclame Véronique Bouchard, présidente du Réseau des fermiers de famille. L'organisme s'est lui-même inspiré de projets semblables au Japon, en Europe et aux États-Unis. Ce qui impressionne tant à l'international, on est le réseau le mieux structuré, explique Mme Bouchard. Le réseau québécois repose avant tout sur son modèle de cotisation citoyenne. Une personne choisit une ferme à encourager et paie ensuite selon la fréquence des paniers de légumes bio qu'elle souhaite recevoir. Présent dans 13 régions du Québec, le réseau, qui célèbre son 30e anniversaire cette année, rassemble plus de 115 fermes et approvisionne 17 000 foyers chaque saison. Leçons de linguistique et de féminisme. Enfin, c'est d'une interjection bien sentie que Le Monde, en 2019, entamait un article sur la féminisation des noms de métiers, à laquelle l'Académie française se résolvait enfin, donc 40 ans jour pour jour après le Québec. Fini les « Madame le maire », place aux mairesses, autrices et autres présidentes, merci, bonsoir. Et ce, n'en déplaise aux puristes qui y ont longtemps vu de véritables barbarismes, rien de moins. Rappelons que le Québec a été le premier espace francophone à recommander cette féminisation dès 1979. Sujet connexe, dès les années 1980, le Québec fait aussi preuve d'avant-gardisme en matière de noms communs associés au monde du numérique. Mentionnons les mots « valise » et « traduction inventée » pour la cause. Courriel, pourriel, infolettre et divulgaché, tandis qu'en France, les mails, spam, newsletter et spoil, prononcés à la française, il va sans dire, sont largement adoptés. Les CPE, un modèle qui inspire. Un service de garde à la petite enfance au prix modique de 5 $ par jour. C'était le projet révolutionnaire mis en place au Québec en 1997 par Pauline Marois, alors ministre de l'Éducation pour le Parti québécois. Résultat, les femmes retournent sur le marché du travail en grand nombre et sortent de la pauvreté. Près de 30 ans plus tard, le modèle inspire New York. Peu avant d'entrer en poste, le maire socialiste Zoran Mamdani a annoncé vouloir s'inspirer des CPE québécois pour créer des services de garde subventionnés dans sa ville. Les chiffres varient, mais les études démontrent que les centres de la petite enfance subventionnés, comme ceux du Québec, rapportent plus à l'État qu'ils ne lui coûtent, grâce aux impôts payés par les maires qui ont pu réintégrer le marché du travail. Prenant l'exemple de la formule québécoise, le gouvernement fédéral annonce en 2021 la création d'un système pan-canadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le tout subventionné par l'État. Si beaucoup considèrent que le réseau des CPE est encore imparfait, le Québec est tout de même considéré comme la province canadienne la plus performante pour garantir un accès équitable aux services de garde et à l'éducation à la petite enfance, selon l'OCDE. Le Bixi québécois fait école. Un vélo-taxi urbain, abordable, en libre-service, que l'on dépose à des stations modulaires alimentées par l'énergie solaire, c'est la révolution du Bixi. En 2009, Montréal s'inspire des services de vélo-partage européens et lance officiellement le sien, le Bixi. Exploité par l'entreprise PBSC Solutions Urbaines, rachetée depuis par l'entreprise américaine Lyft, Bixi devient le premier grand système de vélo-partage en Amérique du Nord. Dès son lancement, le concept fait fureur. L'actualité parle même à l'époque d'un Bixi boom. Ce système de vélo-partage québécois a été imaginé par le designer industriel Michel Dallaire et le constructeur saguenéen Cycle de Vinci. Ces bornes sont conçues par l'entreprise 8D Technologies. Les vélos, fabriqués au Québec, franchissent vite les frontières. Vendus par Lyft Urban Solutions, ils se retrouvent aujourd'hui dans une cinquantaine de villes, dont New York, Chicago, Washington, Melbourne, Londres, Barcelone, Monaco, São Paulo, Buenos Aires et Dubaï. Lauréat de nombreux prix à l'international, comme le Gold Edison Award, dans la catégorie « Énergie et développement durable » 2009, le système de vélo-partage de Bixi figure parmi les 25 plus grandes inventions des années 2000, selon le magazine Time. Softimage révolutionne le cinéma. Saviez-vous que les dinosaures du film Jurassic Park sont québécois? En fait, ils ont été conçus à l'aide du logiciel d'animation 3D Softimage de l'entreprise du même nom, créé en 1986 par le designer et réalisateur Daniel Langlois, avec les ingénieurs logiciels Richard Mercil et Laurent Lauzon. Avec le logiciel de Softimage, il devenait possible de créer de toutes pièces des personnages, de les animer et de fabriquer des mondes virtuels, ce qui représentait alors une véritable révolution dans le monde des effets visuels. En plus de films comme « Le cinquième élément », « La matrice » et « Le seigneur des anneaux », il a aussi été utilisé pour la création de jeux vidéo du monde entier comme « Resident Evil 4 »,« Prince of Persia »,« Les sables du temps » ou « Silent Hill ». Grâce à Softimage, le film Jurassic Park a impressionné le monde entier et a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels en 1994. La même année, Daniel Langlois vend le logiciel à Microsoft pour environ 130 millions de dollars américains. Lui et sa conjointe ont été assassinés en Dominique en 2023. Si Softimage appartient maintenant au passé, il a laissé sa marque dans le monde du cinéma et du jeu vidéo. C'était « Quand le Québec inspire d'autres contrées », un texte de Vincent Poirier et Élise Lécaudé, paru le 24 juin 2026 dans La Presse.
Préparer l'agriculture de demain. Un texte de la rédaction paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Comment nourrir la population aujourd'hui sans compromettre la capacité de produire demain? Bouleversements climatiques, dégradation des sols, perte de biodiversité, dépendance aux engrais et aux pesticides. Les défis de l'agriculture sont nombreux et l'adoption de pratiques agricoles durables ne se fait pas du jour au lendemain. Dans les universités, cependant, on travaille sur une multitude de solutions pour faciliter la transformation structurelle, sociale et écologique des systèmes de production alimentaire. Les arbres et les micro-organismes du sol deviennent de précieux alliés. Les capteurs et les algorithmes viennent prêter main-forte pour la gestion de l'eau et des intrants. Les serres et les fermes verticales font pousser les légumes au cœur des villes. L'autonomie alimentaire du Québec est aussi au cœur de cette transition. Les territoires nordiques, longtemps l'apanage des mines et de la foresterie, déploient leur potentiel agricole. Des serres éco-énergétiques aux variétés de cultures résistantes au froid, en passant par les nouvelles méthodes de gestion des sols, la recherche sème aujourd'hui les bases d'une agriculture durable et résiliente à l'échelle de la province. Ce dossier est inséré dans le numéro de juin 2026 du magazine Québec Science. Il a été financé par l'Université du Québec et produit par le magazine Québec Science. Les 10 établissements de l'Université du Québec ont pour mission de faciliter l'accessibilité à l'enseignement universitaire, en plus de contribuer au développement scientifique du Québec et au développement de ses régions. C'était « Préparer l'agriculture de demain », un texte de la rédaction paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Vortex, la mini-navette de Dassault Aviation pour la nouvelle ère spatiale qui s'ouvre, un texte de Rémi Decourt, paru le 29 avril 2026 dans Futura Science. L'espace est devenu un domaine contesté. Face à la multiplication des satellites, à l'essor de l'économie orbitale et aux nouvelles menaces, l'Europe cherche à s'affirmer. Dassault Aviation y répond avec le Vortex, un projet de mini-navette spatiale réutilisable, développé discrètement avec le soutien de la DGA et du CNES. À l'heure où l'orbite basse devient un enjeu stratégique majeur, le constructeur français ambitionne de doter l'Europe d'une capacité d'accès autonome réutilisable à l'espace d'ici la fin de la décennie. Présenté au Salon du Bourget, le projet d'avion spatial de Dassault Aviation, baptisé Vortex, continue de progresser discrètement mais sûrement. Officiellement lancé grâce à une convention de soutien co-signée par la Direction générale de l'armement, DGA, et le Centre national des études spatiales, CNES, ce programme ambitionne de doter l'Europe d'une mini-navette spatiale polyvalente et réutilisable. Dassault Aviation entend ainsi démontrer que l'Europe est capable de développer, par ses propres moyens, une navette spatiale réutilisable de nouvelle génération. Le Vortex prend cependant forme dans un contexte radicalement nouveau. L'orbite basse est en train de devenir un espace occupé en permanence, à la fois moteur d'une économie spatiale émergente et potentiel théâtre de conflits. Car nos sociétés modernes reposent désormais sur une infrastructure orbitale critique, communication, navigation, observation, renseignement, dont dépendent des pans entiers de nos économies et dont toute disruption aurait des conséquences immédiates et massives. Maîtriser l'accès à cet espace et sécuriser nos infrastructures spatiales n'est plus seulement une ambition industrielle, c'est une nécessité stratégique. Un projet encore discret, mais actif. Compte tenu de l'intérêt que suscite le concept pour des usages à la fois civils et militaires, les informations sur l'état d'avancement réel du programme restent parcellaires. Dassault Aviation choisit néanmoins de maintenir une présence active auprès des professionnels du secteur, notamment à travers la réalisation d'une maquette présentée lors de plusieurs événements spécialisés, le Space Symposium de Colorado Springs en avril 2026, le Forum Innovation Défense de novembre 2025, le InSpace Operations and Services Strategic Forum de décembre 2025, la Space Conference de Bruxelles de février 2026 ou encore le Future Access to Space Club de l'Agence spatiale européenne, mars 2026. Pour structurer son écosystème industriel, Dassault Aviation a multiplié les alliances ces derniers mois. En novembre 2025, le constructeur a conçu un partenariat avec OHB, le spécialiste allemand des satellites, puis, quelques mois plus tard, l'entreprise espagnole Arcadia Space a été sélectionnée pour développer et fournir le système de propulsion complet du démonstrateur Vortex D. Toujours en novembre 2025, Dassault Aviation et Space Cargo Unlimited, une start-up européenne qui développe des usines spatiales autonomes, ont signé un protocole d'accord portant sur l'intégration à bord du Vortex de Bento Box, une plateforme autonome de gestion de charges utiles. Cette collaboration croise le savoir-faire de Dassault en systèmes aérospatiaux complexes avec l'expertise de Space Cargo Unlimited en opérations orbitales autonomes. Elle vise à soutenir la commercialisation du programme tout en renforçant l'autonomie stratégique européenne en orbite basse, LEO. Un engin aux atouts concrets. Les caractéristiques techniques du Vortex commencent à séduire les utilisateurs potentiels. Lors de la conférence Health from Space de mars 2026, des acteurs de la santé et de la recherche en microgravité ont pu prendre la mesure des capacités de l'appareil. Une soute de 8 mètres cubes, une capacité d'emport allant jusqu'à 2 tonnes, la plateforme Bento Box intégrée et surtout la possibilité d'atterrir sur piste conventionnelle, un atout majeur en matière de flexibilité opérationnelle et de récupération des charges utiles. Une feuille de route en 4 étapes. La stratégie de développement de Dassault repose sur une approche incrémentale structurée en 4 phases. Vortex D, un démonstrateur à l'échelle 1 tiers, avec un premier vol visé en 2028. Vortex S, Smart Free Flyer, à l'échelle 2 tiers. Vortex C, version cargo opérationnelle. Vortex M, version à vol habité. Le démonstrateur Vortex D a pour objectif d'évaluer les risques liés à la configuration aérodynamique lors des phases critiques de rentrée hypersonique, tout en validant les systèmes de contrôle de vol et en qualifiant de nouvelles technologies. Cette démonstration générera ensuite une réflexion stratégique et militaire sur l'usage de ce véhicule et, partant de là, sur la suite du programme. C'était Vortex, la mini-navette de Dassault Aviation pour la nouvelle ère spatiale qui s'ouvre, un texte de Rémi Decourt, paru le 29 avril 2026 dans Futura Science.